6 à 4, et si vous avez 0, 0, 0, 1, 1, 0 et 1, 1, bah rien qu'avec les 0 et les 1, vous avez déjà 4 termes. Bon, nous, il nous en faudra un peu plus dans ce problème. C'est ça qui est emmerdant dans cette histoire de séparation. Il nous faut un peu plus de 2. Alors, c'est pour ça que je commence par 2. Là, déjà, vous avez 4 termes. Vous avez 1, 0, et vous avez S et A. Et ça, c'est une petite logique plongée dans la logique classique, dans la logique modifiée, mais qui est la logique classique de 0 et 1, mais qui s'écrit avec S et A. Et du coup, il y a la différence morganienne d'aspect entre les deux. Le diagramme de la différence morganienne, c'est comme ça. Si 1 c'est blanc, il n'y a pas de couleur, et puis 0 c'est des hachures, vous voyez, la différence morganienne d'aspect, son diagramme c'est comme ça. Alors qu'est-ce que je fais moi dans mon dessin? Ben, les hachures, je ne dis rien, si je fais le contraire, vous remarquerez que ce n'est jamais qu'un système d'opposition, hein. De toute façon c'est des phonèmes, on appelle ça du signifiant ou de la lettre. C'est la structure du phonème, hein. C'est le besoin de contenu qu'on a cherché aussi à détruire, la Chomsky, c'est mon tormant, tout ça. Bon. Donc on est dans une situation quand même extrêmement calamiteuse. Hein. On a les moyens de commenter, de savoir pourquoi. C'est ça qui m'énerve. C'est que c'est quand même de la pure mauvaise foi de dire qu'on est sans moyens. Je ne dis pas que c'est facile, hein, mais c'est quand même accessible. Vous pouvez vous faire à l'idée que si je remplace les hachures par le fait de rien mettre du tout, alors évidemment, vous me direz que c'est un drôle de codage. Hein. Et puis, d'autres hachures, je vais les mettre, elles sont comme ça, regardez. L'endroit où il n'y a pas de hachure, je mets du rouge. Bon, et ce n'est pas 0 et 1 que j'écris comme ça. Ici, c'est S. Non, S, ça va être... Et le petit A, je le mets en blanc. A. Alors vous me dites, mais ici, vous n'êtes pas en blanc, le petit A, il est en rouge comme le S. Hein? Donc il faut ajouter à cette différence symétrique, ça c'est P différence Q. Alors ne croyez pas que c'est des codages, ça peut paraître comme ça des codages, mais ce n'est pas des codages, je suis dans une lignée strictement freudienne. C'est des transcriptions. Le problème des transcriptions, ça quitte le codage à partir du moment où c'est plus indépendant du contexte. Et bien moi, je prétends que, en logique, même les substitutions les plus bêtes, qui paraissent indépendantes du contexte, elles conservent la même structure syntaxique au contexte, les connecteurs restent les mêmes, on fait des substitutions dans les arbres, c'est, je crois, ce que n'a pas compris. Ce que Intika a l'air d'avoir pigé, et ce que n'a pas compris Chomsky, il a beaucoup étudié les grammaires indépendants du contexte. Mais il s'en va compte que même si c'est, alors moi je ne dis pas formellement, je dis pas, si c'est dans l'écrit, si c'est indépendant du contexte, c'est-à-dire dans la syntaxe, dans l'écriture, dans l'effectivité, dans la virilité, eh bien, vous avez là quelque chose qui fait que quand vous substituez, vous changez quand même la lisibilité, justement, l'intemporel. La signification, si vous voulez appeler ça comme ça, ce qui fait signification, ce qui produit la signification, ce qui n'est pas le sens, la manière de lire, voilà, vous changez la lisibilité du contexte. Donc, c'est pour ça, parce qu'ils sont tellement ignorants, ces Occidentais, là, qu'ils connaissent beaucoup de choses, mais ils ne peuvent pas s'empêcher d'oublier qu'ils écrivent quand ils écrivent. Ils ne se rendent pas compte qu'ils parlent et que même ça intéresse beaucoup les autres. Sans aucune démagogie. Le terme de se construit sur la parole. Donc si vous voulez vous faire copain avec un gamin ou une gamine, hein, d'une manière pas trop obscène, vous lui parlez du terme de rêve, au moment des fêtes, vous lui demandez son avis sur le cadeau. Il va être tout à fait d'accord avec vous, la plupart du temps, si vous êtes complètement con, il va devenir copain avec vous, bien enfin. Parce que si vous lui parlez que les cadeaux, finalement, c'est pas très intéressant, mais l'important, c'est de savoir qu'est-ce que c'est que cette histoire de Père Noël. Hein. Et c'est quand même ça qui est important, c'est que même quand c'est pas là, c'est là. Vous voyez, c'est comme le phallus. C'est pas le père, confondez pas ça avec le père. Hein. Lacan, il a réussi à nous dégager le père de cette histoire. Il dit qu'il ne faut pas commettre le père là-dedans. C'est une histoire de castration. Mais le père Noël, c'est quand même. Et moi, je raconte l'histoire de mon fils. Quand il avait 8 ans, il est venu sur la table, il en était comme ça tous les deux autour de la table, en face de moi, il me dit écoute, papa. Et bon, je sais bien, on m'a dit, tout le monde, mes copains me l'ont dit, tout le monde me dit, le Père Noël, il n'existe pas. D'accord. Mais est-ce qu'il n'existe pas quand même un peu? Alors, vous voyez, il y a 8 ans. Moi, je pense que à 14 ans, il n'osera plus le dire, mais il continuera à penser pareil. Et que même à 15, mais aussi à 20, à 30, à 40, et que nous sommes tous, avec cette histoire, sans parler d'obscénité, nous sommes tous persuadés que quand même il existe un peu, hein, ce terme-là. Bon, donc, peut-être que la psychanalyse, en écrivant l'ADI, et en voyant la fonction cruciale que peut avoir l'énonciation, on pourrait arriver à arrêter de donner ces interprétations, ces versions éthologiques ou botaniques qui n'ont rien à voir avec la mythologie de la pensée sauvage de Lévi-Strauss, qui était une époque magnifique, mais qu'on retrouve dans tous les textes religieux et scientifiques. C'est-à-dire que, vous voyez, aujourd'hui encore, on essaie d'enterrer le freudisme sous prétexte d'éthologie. On s'intéresse aux animaux. Alors que Marx, il dit, plus on connaîtra l'anatomie de l'homme, mieux on connaîtra l'anatomie du singe. Bon. Ça veut dire que plus on fera la psychanalyse, on pratiquera la psychanalyse avec un peu de rigueur et un peu d'exigence, au lieu de se contenter de faire de l'initiation ou de la transmission, puis pourquoi pas aussi les hommes Si on rigolait un peu plus dans la psychanalyse avec des conneries comme ça, ce serait assez amusant à étudier. Et Lacan, c'est quand même assez divertissant. Écoutez, on ne va pas pleurer, c'est tellement dramatique qu'on ne va quand même pas pleurer, il faut quand même un peu s'amuser. Hein, parce que sinon. Bon. Et moi, je vous remercie du Sud en Argentine, là, il joue du tango, c'est toujours sympa. Bon. Mais n'empêche que. Nous sommes devant cette situation de cesser d'expliquer les choses avec des balivernes. L'énigme chez Lévi-Strauss, il l'a magnifiquement montré, il l'a expliqué ensuite même en ce qui concerne tout ce qui est l'activité humaine, le racisme même. On ne peut pas s'empêcher de faire de la différence et de la ségrégation. Nous sommes constitués par ça, par le phonème. Alors, il faudrait expliquer aux jeunes que ça bouge beaucoup, que ça change tout le temps, qu'il faut apprendre à décomposer, puis ensuite à relier, et que quand on a tout effacé, ben on lit encore les phases et les coutures effacées. Et quand vous apprenez à jouer du bandoneon, quand vous apprenez à danser, ben vous devez décomposer, comme vous n'avez pas lié tout ça, tant que vous ne condensez pas, ce n'est pas des métaphores encore, hein, ce qu'il s'agit. Même avec le corps, vous décomposez, vous recomposez, et quand vous recomposez, vous effacez les coutures. Mais celui qui sait faire ça, il a fait, je sais pas s'il fait de la peinture ou de la musique ou de la danse, et ben il le lit d'autant mieux quand il voit d'autres faire ça. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que même, c'est ça les incorporels, même quand c'est effacé, les coutures, on les lit encore. Ça permet aux enfants de s'identifier, de creuser un trait. C'est l'exhibition, le lisible, voilà. Avant que ce soit la lettre. C'est pas la lettre. Et le néolithique, à mon avis, c'est la plus haute période de l'humanité, puisque, bon, ils devaient se casser la gueule comme nous, avec les voisins, mais ils n'ont pas fait de bombe atomique, eux. Ils ont écouté Einstein qui disait qu'il ne fallait pas le faire. Il a même écrit à Freud pour ça. En disant, comment c'est nous, les savants doivent rester responsables de toutes les choses qui peuvent. Il faut se retenir un peu. On peut écrire, dans la contingence, on arrive même à trouver des choses merveilleuses. Mais on n'est pas obligé de réaliser tout ce qu'on est capable de faire. Il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Il faut expliquer ça. Donc au néolithique, ils ont pas du tout des théories, des conceptions du monde, des théories éthologiques ou botaniques des choses. Ils utilisent les animaux et les plantes pour fabriquer des moyens de nos techniques. Parce qu'ils savent, ils n'ont pas d'écriture. Ils n'ont pas d'écriture et ils n'ont pas d'écriture mathématique qui. que nous, nous avons maintenant, du fait de la théologie catholique, de l'existence de Dieu, de Galilée, de Descartes, ça aboutit à Newton. Donc vous avez Lacan, il nous file le syllogisme scientifique dans Paléophonie de la manière suivante. Il dit Kepler, c'est celui qui a découvert qu'on pouvait écrire la trajectoire des planètes. Les planètes, chez Kepler, elles font des ellipses. Galilée, lui, seconde prémisse, il dit principe d'inertie. Le principe d'inertie, c'est si un corps ne subit pas d'influence, il va en ligne droite. Alors, conclusion du syllogisme keplérien-galiléen, c'est Newton. Puisque ça ne va pas en ligne droite, ça suit des ellipses, ça subit donc une influence. Et lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il écrit la diffusion de la chaleur autour d'une bougie. Vous avez la chaleur autour d'une bougie, comme ça. Ça donne la force d'attraction, c'est le produit des masses divisé par D2, la distance qui est entre eux, puis un facteur gravitationnel à rajouter pour en plus. Parce que algébriquement, ça passe un vecteur, parce que là, on a mis un vecteur, la force, là, c'est un vecteur. C'est ça qui est marrant, regardez, c'est ça qui est marrant, c'est que plus, si vous avez la chaleur autour du bougie, à chaque fois que le temps passe, plus la bulle de chaleur s'éloigne du centre, quand le rayon, on va l'appeler D1, D2, c'est le rayon plus grand, voyez, la chaleur, elle se répartit plus sur la sphère et elle diminue. Donc, Newton, c'est génial, il prend une formule à la noix, un truc de thermodynamique assez simple, c'est ce qui fait que vous avez froid quand vous vous éloignez de la cheminée, quand vous êtes à votre maison de campagne, pendant l'hiver, et puis si vous vous approchez du feu, vous pouvez même vous brûler un peu, bon, si vous allez trop près, il prend ça et il nous fait la gravitation. Ça a déclenché, et les ingénieurs, jusque-là, ils étaient des bricoleurs, pas le genre bricoleur néolithique, c'était des bricoleurs un peu, ils avaient des moulins avant, des fortifications, ils se sont dit, on pourrait faire des maths, on pourrait utiliser des mathématiques. Donc, ça donne aussi des idées aux banquiers, vous voyez, pour les calculs du rendement, on a amené l'esclavage, comme explique Klosowski, puis finalement, on se retrouve avec cette pourriture sur les bras, qui est une description, parce que les mathématiques, c'est une écriture qui fait rentrer l'impossible dans le monde. Il faudra arrêter de croire que la science, c'est une science qui décrit et observe le monde. Ça, par contre, c'est une erreur de Marx. Quand il dit, c'est vrai qu'il parle des philosophes, mais les philosophes, ils ont toujours décrit le monde, maintenant, il faut le transformer. Non, depuis le néolithique, nous transformons le monde. Partout où l'activité humaine se déplace, se produit, elle bouscule, elle redessine, elle recompose, elle écrit. Mais elle écrivait d'une manière soft, c'est ça qui intéresse les écolos. On écrivait d'une manière soft avec les mythes, parce qu'ils n'étaient pas cons. Puis nous, on a trouvé une écriture hard. Alors c'est pour ça que dans la psychanalyse, il y a des gens qui croient que c'est une science, une médecine douce. Ils disent qu'il ne faut pas faire de mathématiques parce que c'est trop hard. Ben non, même dans le cabinet de psychanalyse, on transforme le monde avec de la parole et avec de l'écrit. Parce que la question, c'est de voir comment fonctionne l'un avec l'autre. Voilà. Et même, je vais vous proposer une lecture de la topologie des nœuds, le passage de ces dessins à plat aux dessins noués, comme ça, avec des dessus-dessous, c'est-à-dire ce genre de truc-là, que je voudrais apprendre je voudrais expliquer comment je lis et comment j'écris ça. Ben ça, à mon avis, c'est le lieu, c'est des nœuds qu'on peut faire avec la ficelle, aussi mettre à plat sur la table sans les aplatir complètement. C'est le lieu. D'accord, il a dû chercher ça pendant pas mal de temps. Il y a pas mal de trucs qu'il a cherché pour voir ce qu'il était dit. Il cherchait à savoir où ça se trouve, les endroits, les lieux de fracture. À mon avis, les nœuds, c'est ça, la qualité d'une écriture et la qualité de la parole, ou le défaut de l'écriture et le défaut de la parole. Ça, c'est selon ce que vous préférez. C'est-à-dire que la parole et l'écrit capitonnent dans cette façon d'écrire la psychanalyse avec les deux. Vous voyez, en 1900, 1957, Lacan il dit, voilà, une mathématique dialectique à laquelle il faudra s'habituer dans la chose première. C'est l'algèbre de Boole. Badiou n'a pas capté ça. Il a même écrit dans Condition un article pour corriger Lacan, parce que Lacan dit que le 2 est inaccessible, c'est comme l'infini. Vous savez, dans l'algèbre de Boole. Et les deux actions, l'action de seul, c'est que ce 2 égal x, enfin l'action supplémentaire de Boole. Donc le 2 ici, il fonctionne comme le 1. Et puis il y a pire, de ça on peut déduire que 2x est égal à 0. Alors là, le 2, il fonctionne comme le 0. Et là, quand il dit ça, il dit en prenant celui-là surtout, il dit le 2 est inaccessible, c'est comme l'infini. C'est ce qu'il dit, ça nous permet de dire dans l'étourdi ce qu'il dit sur les transfinis de Cantor. Hein. Il dit que, puisqu'on a mis dans le chapeau, à partir du moment où dans le chapeau on a mis 0 et 1, ça peut même se développer comme ça, dans des petites matrices à la noix, comme ça, de 2 termes, de 3 termes, de 4 termes. On est toujours dans l'algèbre de Boole. À un moment donné, on va quitter l'algèbre de Boole. Guittard, il a montré, mon ami Guittard, il a donné la solution au problème de la division dans Lacan cherche à résoudre. Il a montré que tout algèbre de Boole correspond, donne lieu à la construction d'un corps de Galois où on veut faire une division. Seulement, je vous dis pas, moi, ça, à mon avis, c'est intéressant. C'est très intéressant de voir qu'on peut, comme ça, bien situer ce que Lacan essayait de faire. Il n'a pas réussi à faire une division. Mais, les calculs dans le corps de Galois, et si on veut revenir dans l'algèbre de Boole, là, il y a 2 semaines, j'ai essayé de faire ça pour définir les différentes négations, pour résoudre des équations logiques, pour définir les différentes négations qui permettent d'écrire inconscient comme Freud le propose. C'est-à-dire, c'est pas conscient, mais c'est pas non conscient. Hein, pour un type de négation comme ça. Je ne vous dis pas, je me suis bien emmerdé, parce que le truc de guitare, c'est ça qui est enquiquinant avec les mathématiques. C'est qu'il y a toujours, les mathématiques, ils ont toujours une tendance comme ça à faire. Grosse tête, et ils rentrent dans des calculs infernaux. Alors que moi, mon idée, voyez-vous, c'est de rester. C'est pas que je considère les gens bon, pas du tout. Alors là, moi, je suis pas du tout de considérer les autres comme des cons. Moi, je considère d'abord que je suis un con, puis, comme tous les bons mathématiciens, je suis d'abord paresseux. C'est-à-dire que je pense que les mathématiques, c'est le contraire du stagnolisme. Quand un mathématicien, c'est quelqu'un qui, quand il voit un truc compliqué, comme ce que faisait Einstein, par exemple, la relativité, c'est écrit sur 35 cahiers, il dit, bon, ben, on doit pouvoir écrire ça plus simplement. Et moi, je prétends qu'on peut écrire tout ça de manière accessible à n'importe quelle analyse en lambda. Il ne faut pas arrêter de prendre tous les profs avec les élèves, les analyses avec les médecins, tous ces gens qui s'occupent qui se contentent pas de déplacer des tableaux et des tables, qui s'occupent de sujets, il faut arrêter de prendre les autres pour des cons, parce que ce qui est sûr, c'est que chacun, d'abord, fait le con, en posant des questions cons, et puis considère que les autres, plus ils sont cons, moins ils sont dangereux. C'est même pour ça que les analystes ont pu comme ça se retrouver, qui sont vraiment. Vous savez, le meilleur danse avait écrit à Lacan un roman qui s'appelait Le Pitre. Lacan, il faisait l'idiot dans son cabinet, c'était. Il s'emmerdait tellement avec tous ces gens qui ne sont pas rigolos du tout. Moi, il a tenu un moment fait ça, il m'a fait un jour, il m'a fait passer toute l'après-midi dans la bibliothèque de son appartement. Je n'ai pas bien compris à l'époque pourquoi. Il m'avait donné un livre de décret à lire. Il m'a collé au milieu, donc ça c'était un peu le théâtre. J'étais au milieu de la pièce avec un lampadaire, une table, une chaise, et j'ai fait un Becquerel sur les différentiels de deuxième degré, puisqu'il se posait la question dans son séminaire de comment une surface, comment un espace de dimension 4 peut être une surface dans un espace plus grand. Vous voyez le genre de truc. Il a formulé ça, il y a Annie Cardi qui s'en est aperçu, qui l'a commenté, mais ce qu'elle ne sait pas, c'est très bien ce que ça veut dire sur cette histoire. Mais quand même, il y a des gens qui disent Lacan. Hein. Le problème, c'est qu'on n'a pas beaucoup. Il y a des façons de lire quand même. Il faudrait arriver à lire d'une manière un peu divertissante, sans se prendre trop du col. Bon. Toujours est-il qu'en maths, ça devient très vite compliqué si on se laisse aller c'est pour ça qu'on ne peut pas tellement parler. Il faut trouver des mathématiciens qui sont quand même, qui arrivent à sortir de la compétition dans laquelle on est aujourd'hui, dans la formation qu'ils soient, ils sont de plus en plus mal en point, mais ils ne sont pas psychotiques du tout, comme disent les psys, hein, les psychanalystes. Il y a toute une bande là qui fait ça, Gödel, Cantor, vous avez vu ça, Gödel, Turing, Cantor, Turing, Gödel, la liberté et la rigueur psychotique. Non, mais il faut quand même. Toute rigueur, c'est psychotique, puisque Lacan a dit la psychose, c'est une recherche, c'est une tentative de rigueur. Vous voyez comment on fait des. On confond justement l'équivalence logique, c'est-à-dire ce qui est nié ici, avec l'application. Hein? Donc ça, rien que ça, ça mérite déjà de réfléchir beaucoup pour tourner sa langue 15 fois dans sa bouche. On pourrait en faire des thèmes de séance d'analyse, quand même, un analysant qui vient dire à un analyste qui ne comprend pas pourquoi ça, c'est crucial, ça, A, B, S. Ce qui est crucial, c'est de savoir en plus que ça s'écrit la négation, hein, de A et non S. Vous voyez, il faut savoir ça. Alors ça, c'est le choix forcé. Bon, Lacan, il nous a produit un vel aliénant. Ça, le vel, c'est les deux ensemble. Mais le vel, il est aliénant à cause du S, hein, du petit 1, du S. Donc moi, j'ai montré que c'était comme ça avec le 0, 1, en algèbre de boucle, vous avez 0 est différent de 1, et que 0 implique 1. C'est même le seul cas où il y a une implication, le faux implique le vrai, ça ne s'écrit que dans le cas des antilogies et des tautologies. Bon. Et c'est pas très compliqué à comprendre pourquoi c'est le faux implique le vrai dans ce cas-là, puisque si vous vous reportez à la théorie des ensembles, l'algèbre de Boole, c'est pas forcément une théorie des ensembles, mais en théorie des ensembles, vous avez une algèbre de Boole sur l'ensemble des parties de n'importe quel ensemble. Donc vous êtes forcément en algèbre de Boole quand vous êtes en théorie des ensembles. Oui, je vais faire des lapsus. Bon, vous avez là. Pourquoi ? Ben regardez, si le 0 c'est l'ensemble vide, et puis vous prenez comme 1, vous prenez un ensemble i, qu'on va barrer, vous voyez bien que le vide, il est de toute façon inclus dans tous les ensembles. Et donc dans le plus grand, dans celui qui sera ce qu'on appelle le référent. Donc il n'y a pas de paradoxe de l'implication matérielle, il y a simplement un truc qu'on n'avait pas vu avant, c'est l'ensemble vide. Et ça, c'est Cantor. Donc Cantor, il dit des trucs, vous voyez, qui fait que, après lui, nous dit Lacan, il n'y a plus d'initiation tenable. Et la filialité n'est pas une initiation. On le savait déjà, parce que le rapport sexuel est fort clos dans la séance. Hein, fort clos, encore le même mot, là, qu'on emploie pour la psychose. Bah, c'est une psychose dirigée. Donc il n'y a pas de raison d'avoir froid aux yeux, de craindre ça, c'est même pas l'horreur. C'est déjà assez pénible comme ça, mais c'est assez difficile de faire une analyse, c'est même rare. Mais n'empêche que, vous voyez, avec ce genre d'écriture, Cantor, il nous permet de dire des choses qu'on n'avait jamais dites avant. Qu'il n'y a pas de paradoxe dans l'éducation matérielle. Mais par contre, il y a un truc bizarre qui s'appelle l'ensemble de vide. Alors ça, c'est un truc d'écrit. Ça, c'est de l'écrit. Bon. Donc voilà, comment se diriger lentement vers l'écrit. Alors, les levels aliénants de la séparation, je vous montre tout de suite comment ça se passe, de pas de la séparation, de l'aliénation, je vous montre tout de suite comment ça se passe. Regardez, vous avez trois ou. Vous voyez, c'est l'occasion de voir avec Lacan, qui a là aussi à chercher à éclairer un petit peu le problème. Vous voyez, Mme Claude Imbert, elle dit que le calcul des propositions, que l'utilisation c'est un crétin, que le calcul des propositions sort de l'intérêt. Dans un colloque de psychanalyse, même, j'ai entendu dire, elle dit, oui, c'est pas vous, elle s'appelle, vous voyez, c'est sympa avec le psychanalyste, elle dit, oh, oui, c'est pas vous qui vous intéresse à des choses tellement intéressantes que c'est dans la langue, c'est vrai, tout le monde est égal à votre passion. Mais, elle disait comme ça, oui, c'est pas vous, c'est pas à vous qu'on va dire ça, que quand même, le calcul des propositions, le calcul de la coordination, le et, la négation, l'implication, tout ça, c'est tellement crétin à côté de la richesse de la coordination, alors que ça, c'est une version littérale de la coordination des propositions et des concepts. En grammaire, vous avez vous avez deux, dans la grammaire de la proposition, vous avez deux versants, vous avez la subordination des propositions, puis vous avez la coordination des propositions. Et dans le Grévis, vous direz que le Grévis, il dit, bon, ben, il ne traite pas la coordination des propositions, il laisse ça au logicien. C'est un endroit dans le Grévis, le mot logique dans la grammaire. Alors que les grammaires, ce qu'on vous apprend à l'école en grammaire, c'est la subordination des propositions. Alors, qu'est-ce qui fait tort à Mme Imbert? C'est que, vous voyez, il y a des coordinations dans la langue qui ne collent pas avec les coordinations dans la logique. Parce que la logique, c'est de l'écrit. Pourquoi, là, je reviens toujours à mon cheval de bataille, en fait, c'est quoi? La logique, c'est de l'écrit, la langue, elle est parlée, elle est aussi écrite, mais elle est parlée. La logique, elle est devenue mathématique. Hein, on peut faire ça en silence. La langue, elle est parlée. Bon, la langue, c'est deux langues. Hein, ça, c'est encore un accordéon de plus, un bandonnéon. C'est une langue parlée, une langue écrite. C'est pas la même, mais je dis que c'est la même. Hein. C'est ce que dit à Jung, Freud, à propos de la libido. Jung, il comprend pas. C'est vrai que nous, on a tendance à vouloir l'effacer avec l'écriture alphabétique. On essaie de faire disparaître cette différence. Cette différence, on voudrait nous faire croire que la langue écrite est un duplicat de la langue parlée. C'est faux. Écrire et parler, c'est deux activités d'inertie opposées. Et il n'y a que dans le nœud que ça se rencontre. Alors qu'est-ce qu'on doit à Lacan en matière de coordination? Regardez, vous avez trois ou. Dans les cours de logique, vous n'en trouverez que deux. Bon, moi je tiens que Lacan, c'est un logicien qui a surplombé le ciel. Le Godel, c'est pas mal, mais. Pas que, il y a aussi dans la psychanalyse, il y a un grand logicien. Freud, c'était déjà pas mal avec la langue, justement, et l'écriture, c'est un spécialiste d'écriture. D'accord, il parle plus et il fait des trucs comme ça. Qu'est-ce qu'il nous fait? Eh bien, regardez, vous connaissez tous le ou. Ou, c'est quoi? Quand on dit ou, c'est fromage ou dessert. C'est « ou » comme ça, ça s'écrit comme ça, ça se dit dans la langue, ça se dit « ou ». Hein? Fromage ou dessert, mais vous pouvez avoir les deux. Hein? Bon, et puis vous avez un « ou » qui s'appelle, alors là, « exclusif ». Alors, vous avez des tas de gens qui se rafent la tête, vous voyez, comme quoi l'enseignement de la logique est très mal fait. Moi, j'ai vu des tas de gens se casser la tête en disant « c'est peut-être celui-là, le rêve de Lacan ». C'est fromage ou dessert, ça, mais vous ne pouvez pas avoir les deux. C'est qu'on est rentré dans la crise économique depuis longtemps, d'ailleurs. Le fromage ou dessert sans avoir les deux, ça date des années à peu près 60. Ça fait très longtemps qu'on n'a plus offrir les deux dans les routiers. Bon, alors ça se dit « ou » aussi. Vous voyez, la langue, elle ne fait pas de distinction entre les deux. Et ça, c'est pas où, ça, c'est la différence symétrique d'aspect. C'est ce vecteur-là. Vous voyez, regardez le schéma que je viens de dessiner au tableau, c'est le même que ça. Hein, j'ai réuni l'intersection et l'extérieur. Hein. Et le vel qui dit où aussi, hein, la bourse ou la vie. Et alors Lacan, c'est génial parce que ça marche d'une manière synthétique. Ça marche d'une manière synthétique, le vel aliénant. D'une manière, analytique, le vel aliénant, en fonction de la définition même des mathèmes qui sont écrits, du 0 et du 1, ou du vide et de l'ensemble. C'est analytique, hein, là je parle des jugements au sens ancien. Analytique, c'est ce qui intéresse Frege. C'est analytique, c'est ce que j'ai écrit dans le papier que j'ai mis dans Internet. Mais Lacan, il a tout fait de nous donner un exemple synthétique a priori. Synthétique parce que là, pour comprendre la bourse ou la vie, la bourse ou la vie. Hein? Ça se dit où pareil? Dans la langue, c'est pareil. Donc, Madame Imbert, elle est fou parce qu'il y a, dans la logique, on distingue trois ou, comme ça, dans l'écriture, hein? Comme ça. Le dernier, je ne vous l'écris pas tout de suite, je vais vous l'écrire. Le dernier, là, qui réunit ces deux-là, je vous l'écris maintenant. Quand on met les deux ensemble, c'est non A implique, non S implique A. Ou si vous
préféré l'écrire, ce ou là, il s'écrit comme ça. Vous voyez ? Vous pouvez l'écrire aussi à l'inverse, c'est A, n'est pas indiqué par S. Bon. Il est donc parfaitement repérable, écrit. Celui-là, il s'écrit non implication à l'inverse. Quel est son diagramme ? C'est une différence symétrique d'aspect. Mais en plus, il n'y a pas de bourse sans la vie. Ça, c'est synthétique dans cet exemple. Il n'y a pas de bourse sans la vie. Vous ne pouvez pas garder la bourse. Si vous donnez la vie, vous vous retrouvez avec une bourse, mais mort. Alors, c'est ça qui est synthétique. C'est ça qui est un peu aliénant. C'est le choix forcé, voyez-vous, ça énerve un peu en vie. C'est quand même malhonnête de nous proposer, de nous dire où tu peux choisir la bourse ou la vie, et puis que finalement, tu n'as pas le choix. C'est ça le choix forcé. Bon. Et bien, regardez, c'est quand même marrant la disjonction logique. C'est que là, ça occupe trois places vides et une qui n'existe pas. Ici, il n'y a plus que deux places où on peut se déplacer. Et puis là, il n'y en a plus qu'une. Alors là, vous voyez, c'est un ou vous n'avez pas le choix. Bon. Pas mal. Et dans la langue, ça se dit ou comme ça. Il n'y a qu'une seule. Bon. Donc il faudrait qu'on commence à s'apercevoir que l'écriture et la parole, c'est pas pareil. Ça évite très bien des conneries. Et puis, ça permettrait peut-être de repenser la pratique analytique chez l'analysant. Parce que finalement, c'est tout ce qui nous intéresse. C'est arriver à décoller de cette histoire qu'il faut qu'il raconte son papa, sa maman, qu'il faut qu'il vous répète et qu'il croit qu'il est un cas exceptionnel et magnifique d'une étape de Freud que Freud a abandonné à ses vies. D'ailleurs, moi, en 35 ans, ça fait à peu près 35 ans que je pratique l'analyse, depuis 75, j'ai vu toutes les lectures de Freud, les plus bêtes, les plus récentes, passer chez moi. Vous avez vu qu'ils veulent régresser. Ils veulent se remémorer. La remémoration, régression, la théorie du transfert, frustration, agression, régression. Ils n'ont pas encore. On leur a pas dit, parce que les clients sont incapables de dire, parce qu'ils sont des analysants, on peut faire beaucoup d'analyses. Ils ne sont pas capables de dire quand même à tout le monde, on parle dans l'analyse, ce n'est pas parce que c'est la liberté. C'est qu'il faut qu'il n'y ait aucun règlement, parce qu'on veut justement voir pourquoi quelqu'un ne parle pas, c'est lui que d'ailleurs ça intéresse, pourquoi quelqu'un qui peut dire quelque chose, dans cette situation, face à quelqu'un d'autre, in vivo, ça ne se fait pas par téléphone.